Bonjour et bienvenue dans le podcast Rencontre à l'aveugle, podcast sur le thème de la périnatalité. Nous avons la chance d'écouter des témoignages réalisés sous forme de conversations avec des femmes non-voyantes ou malvoyantes. La périnatalité est un thème qui me passionne et c'est pour cela qu'en tant que sophrologue, je me suis spécialisée. Durant ces conversations, nous aborderons avec ces femmes l'annonce de leur grossesse, le vécu de leur grossesse, la réalité de leur accouchement et comment elles vivent au quotidien leur vie de maman non-voyante ou malvoyante. Ce sont des récits d'une grande richesse pour nous tous. Vous allez entendre des fous rires, des larmes folles et des silences. Je me suis déplacée avec mon matériel pour enregistrer ces entretiens. Vous pourrez écouter ce podcast à tout moment et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous présenter Agathe Thévenin-Vialet, que j'ai connue grâce aux réseaux sociaux. Karine Hasbrouck a créé l'association Jetons un œil sur l'avenir, qui a pour but d'ouvrir un autre horizon aux personnes déficientes visuelles quant à leur avenir professionnel. Cette association les aide à développer leur ambition au-delà de leur cécité. Un jour, Karine a partagé dans un message privé une vidéo d'Agathe se présentant avec un braille sense entre les mains. Vous savez, c'est ce bloc-notes braille hyper puissant. La façon pétillante de parler d'Agathe m'a beaucoup plu et son objet mystérieux m'a fascinée. Depuis presque 2 ans, nous échangeons Agathe et moi sur notre passion, la périnatalité. Je la vis avec les mamans que j'accompagne en sophrologie et Agathe la vit avec des parents qui apprennent le handicap de leur enfant. C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui, Agathe et moi. Je partagerai avec vous tous les liens cités dans cette conversation. N'hésitez pas à partager cet épisode, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute et vous y abonner. La musique du podcast Rencontre à l'aveugle est de Stéphane Tsapis. J'ai créé ce podcast et je suis très heureuse de ce nouvel épisode. Salut Agathe!
Salut Léa!
Je suis vraiment contente qu'on prenne le temps d'enregistrer cette conversation, parce que depuis le temps qu'on en parlait, on va pouvoir l'enregistrer. Je voudrais commencer par te demander, en fait, quelle est ta profession?
Accompagnante parentale pour les parents qui ont des enfants déficients visuels. J'ai un diplôme de moniteur éducateur, donc c'est l'échelon en dessous de l'éducateur spécialisé qui est censé travailler dans la vie quotidienne des personnes en difficulté sociale, en situation de handicap, de la protection de l'enfance. Par ma sensibilité, puisque moi-même je suis aveugle de naissance et donc je connais beaucoup de personnes qui sont déficientes visuelles ou qui ont d'autres handicaps, et de par mon vécu, notamment dans mes stages et en début de pratique professionnelle, qu'on accompagnait énormément les enfants en situation de handicap, puisque moi c'était ce public qui m'intéressait en démarrant ce métier, mais que finalement on accompagne extrêmement peu les parents. J'ai découvert le métier d'accompagnante parentale qui vise à être reconnue petit à petit, mais qui, quand j'ai passé mon diplôme, ne l'était pas. Donc j'ai une certification, enfin une attestation si tu veux d'accompagnante parentale, mais quand même une vraie formation derrière. J'ai eu envie d'accompagner des parents qui ont des enfants déficients visuels, puisque j'ai pu me rendre moi compte de quelques difficultés, bon pas toutes évidemment, et puis on vit pas tous les mêmes choses, donc je sépare quand même ma vie personnelle de ma vie professionnelle, mais je sais qu'il y a quelques petites choses qui peuvent être récurrentes, quelques questionnements sur lesquels il est possible d'accompagner un parent, surtout quand soi-même on a cette déficience visuelle et que le parent n'a pas forcément de témoignage de personne qui est elle-même déficiente visuelle. Donc j'ai inventé un peu ce métier de toute pièce il y a 2 ans, presque et demi. Oh, ça passe, hein. et voilà, c'est mon travail aujourd'hui.
Comment tu trouves ces parents ? Est-ce qu'ils viennent à toi ? Est-ce que c'est toi qui as démarché ? Comment t'as lancé ton activité ? Comment tu as trouvé ces parents ? J'ai vraiment eu du mal à trouver les mamans qui étaient non-voyantes ou malvoyantes. Mais donc, je me disais, tiens, est-ce que Agathe, elle a eu autant de mal que moi à trouver les parents qui découvrent le handicap de leur enfant ? Ou alors, pas du tout, est-ce que c'est venu assez facilement ? Est-ce qu'on t'a trouvé facilement ? Est-ce que toi, t'as démarché ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors moi, je fonctionne avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et même un peu LinkedIn pour trouver des professionnels. Dans l'idée, c'est tous les réseaux sociaux auxquels je participe et j'ai aussi mon site internet qui est en cours de création. En fait, ça n'a pas été si compliqué que ça de trouver des parents d'enfants déficients visuels. J'ai fait une interview avec Yves Wancy, tu sais...
Je me rappelle très bien, on avait fait un Zoom.
J'ai perdu le nom. Déficient visuel, lancez-vous. C'est ce que je cherchais. DV, lancez-vous, qui est absolument génial. Effectivement, on avait fait un débat ensemble sur la parentalité. Yves m'a interviewée et c'est quand Yves m'a interviewée qu'il y a une première maman qui est venue vers moi directement d'elle-même. Et là, j'ai découvert, grâce à cette maman, un groupe pour les parents qui ont des enfants déficients visuels. D'autres parents sont venus vers moi et petit à petit, au départ, j'étais pas censée forcément accompagner que des parents qui avaient des enfants déficients visuels. Ça m'a fait très peur parce que je me suis dit, waouh, est-ce que tu vas pas toi-même droit dans ton enfance et droit dans des choses qui peuvent être compliquées? Et en fait, pas du tout. Ça s'est très bien passé et j'ai adoré faire ça. Et finalement, c'est moi qui démarche et les parents qui viennent voir moi, ça dépend, ça dépend en fait. Selon les publications, selon où je suis interviewée, etc. Je vais pas mentir en disant que je vis de ce métier aujourd'hui. J'ai pu accompagner une dizaine de parents en 2 ans, peut-être un peu plus. Mais franchement, sincèrement, j'ai pas tenu les comptes, enfin les calculs de nombre de parents que j'ai accompagnés. Mais sur un accompagnement longue durée, ça va faire une dizaine à peu près, qui est à la fois beaucoup et à la fois très peu, parce que une dizaine de parents, voilà, tu comptes une dizaine d'accompagnements en guise de salaire, donc c'est pas énorme. J'en vis pas. Mais j'adore ce que je fais et j'aimerais bien étendre mon activité petit à petit vers d'autres choses liées à la déficience visuelle et notamment la périnatalité, pourquoi pas. C'est un sujet qui m'interroge beaucoup.
Est-ce que tu t'es sentie épaulée, soutenue, entendue par ton entourage?
Pas du tout.
D'accord.
À part par mon chéri, pas du tout.
On va peut-être dire à nos auditeurs que tu es une personne extraordinaire.
Merci. Alors ça,
Voilà,
c'est pas moi qui vais
tu
le
vois.
dire. Mais...
Et que tu as une particularité, c'est que tu ne vois pas depuis que tu es né.
Oui, tout à fait. Je l'ai précisé à un moment donné, mais très vite fait, effectivement, j'ai
Voilà.
une amaurose congénitale de Leber et je suis aveugle depuis ma naissance.
Et est-ce que tu penses que c'est parce que tu ne vois pas que tu n'as pas été soutenue quand tu as lancé ton activité ou pas ou...
Ah non, non, non. Non, non. Si tu veux, j'ai des parents qui sont professeurs, qui ont un métier. Enfin, mon père m'a soutenue quand même au départ. Maintenant, ma mère me soutient aujourd'hui parce qu'elle a des très bons retours de personnes qu'elle connaît autour de la déficience visuelle et qui lui disent à quel point ce que je fais est génial. Donc maintenant, j'ai des bons retours, mais ma mère a quand même fini bloquée sur mes réseaux sociaux, le dialogue a été rompu, etc. Au départ, ça a été très difficile. Ça nous a permis de grandir énormément l'une et l'autre, mais ça a cassé quelque chose pour mieux reconstruire, mais ça a vraiment cassé quelque chose. Eux, ils partaient du principe que j'allais devenir enfin, déjà, à la part, j'étais censée devenir professeur de musique. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, le manque de moyens humains et techniques de la faculté, le fait que j'ai été foutue à la porte de la fac, en gros, hein, pour la faire courte, et je me suis réorientée pour être éduc. Et pour eux, c'était cool, un boulot stable, c'est génial, tu vas devenir éduc, tu vas avoir un CDI. Moi, j'ai pas du tout voulu avoir un CDI, j'ai pas du tout voulu travailler en institution, parce que je les ai vus de l'intérieur et de l'extérieur, des deux côtés, si tu veux, en tant que personne en situation de handicap et en tant qu'éducatrice, et j'ai vraiment pas voulu rentrer dans ce milieu-là à plein temps. Par fatigabilité aussi, mon handicap me fatigue beaucoup. Ma maladie génétique, elle atteint aussi une zone notamment sanguine qui fait que quand je fatigue, eh ben, je manque considérablement de fer et de globules rouges et que ça devient dangereux pour ma santé. Je peux pas non plus faire n'importe quoi. En fait, moi, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat qui, au départ, me paraissait magique. Maintenant, il me paraît plus magique du tout, hein. Il est bien, mais il est pas magique. Et ce monde de l'entrepreneuriat m'a attirée et j'ai voulu créer ma propre entreprise moi-même. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix. Je me pose juste beaucoup de questions sur ce que va devenir mon entreprise. Je pense qu'on peut le dire quand même ici. Je suis future maman enceinte aujourd'hui quand on enregistre ce podcast de 4 mois et demi. Donc, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai énormément envie de m'occuper de mon enfant. Et je ne sais pas comment je vais mener ça de front. Et qu'en même temps, cette grossesse me fait découvrir énormément de choses et me donne envie d'agrandir mon activité, mais je ne sais pas comment. Juste pour revenir à la situation de départ, à ta question de départ, au départ, j'ai pas été soutenue parce que j'ai des parents qui connaissent pas ce monde de l'entrepreneuriat, qui ont eu peur que je me fasse arnaquer par ma formation d'accompagnante parentale. Ils sont très dans le public, tu sais, les établissements publics, les vrais diplômes, etc. Tout ce qui est attestation, etc. Ça leur parle pas du tout. Donc au départ, ça a été, tu deviens taré, ma fille, tu devrais pas faire des choses comme ça. C'est n'importe quoi, je romps le dialogue, je t'engueule et je me barre. Voilà. Et finalement, eh ben, on a chacune compris nos besoins et puis elle a compris que de toute façon, elle pouvait dire, enfin, ils ont compris, parce qu'il n'y a pas que ma maman, hein, d'autres personnes aussi, qu'ils avaient beau dire, je n'en ferai qu'à ma tête de toute façon. Ce que je fais toujours. Et donc, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai monté mon petit bonhomme de chemin, dont aujourd'hui je ne vis pas, mais des réseaux sociaux qui me procurent énormément de plaisir à maintenir et c'est déjà beaucoup. Je pense que se faire plaisir dans la vie, c'est quand même une des premières choses et que j'ai la chance d'être déficiente visuelle et donc d'avoir des revenus qui tombent quand même tous les mois. Et c'est une vraie chance. Et du coup, bah, je saisis cette chance pour faire ce que j'ai envie de faire et pas ce qu'on voudrait que je fasse.
Agathe, est-ce qu'on a essayé de te dissuader d'avoir une vie professionnelle autonome, de monter ton entreprise? Je parle toujours par rapport au fait que tu
Ouais, je
vois
peux
pas.
pas te dire oui, je peux pas te dire non. Disons qu'on m'a mis en garde. On m'a pas forcément dissuadé, on m'a pas interdit, on m'a pas dit si tu fais ça, tu fais plus partie de la famille ou quoi que ce soit. On m'a simplement dit c'est une vraie connerie, tu devrais pas faire ça.
Ok.
Ce que fait la famille en fait, ce qui est assez quand tu juges que tu mets en danger. Après, on n'en a pas. Bah, personne m'a jamais rien interdit et j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Et puis de toute façon, ils me connaissent, ils savent que quand j'ai une idée en tête, si tu veux, elle est pas ailleurs quoi. Elle est bien là. Donc j'ai fait ça et puis en fait moi j'ai appris à mettre mes distances entre ma famille et ma vie professionnelle et petit à petit les distances enfin, s'enlèvent parce que si tu veux ma famille voit bien que ce que je fais sert à des personnes, j'ai quand même des témoignages qui sont édifiants et moi je me suis pas gênée pour montrer ces témoignages à ces personnes-là, leur dire bah regarde là j'ai le témoignage d'une personne que j'ai accompagnée, lis et ensuite on discute.
OK.
Voilà, après il y avait toutes les questions, les tarifs, oh là là, mais tu fais payer aussi cher tes accompagnements, mais qui t'es pour faire ça? Soit j'ai pris le temps de répondre, soit j'ai jugé que c'était des réponses qui valaient pas la peine d'être vécues. Je me suis transformée en Google Home et j'ai dit non, je ne veux pas parler de ça avec toi. Et alors, au fond, on me disait, tu me saoules à me dire que tu veux pas parler de ça avec moi. Ben oui, bah arrête de poser la question. Voilà. Et donc, du coup, bah, les questions ont arrêté d'être posées. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde est passé un peu à autre chose 2 ans et demi après. Donc, je vis ma vie. On me demande si j'ai des clients. Voilà, je réponds, bah peut-être. De toute façon, il y a. Tu sais, j'ai la déontologie d'un psychologue, donc je suis tenue de rien te dire, etc. Donc voilà, je m'arrange un peu comme ça, comme je veux, à ma sauce, et je dis ce que j'ai envie de dire, et je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai conscience que bloquer quelqu'un sur un réseau social ne sert à rien, ce que j'ai fait, mais la personne s'est recréé un compte, et je le sais, mais j'ai fait comme si j'avais pas vu, tu sais, genre, j'ai rien vu, je sais pas. Mais au moins, la personne ne m'embête plus, suit ce que je fais si elle veut, mais ne peut rien dire parce que je suis pas censée savoir. Voilà.
Alors, autre question. Tout à l'heure, tu as très vite dit que tu allais être maman.
Oui.
La question que tout le monde peut se poser, parce que je la pose à toutes les mamans que j'enregistre, est-ce qu'on a essayé de te dissuader de devenir maman?
Mon entourage familial, pas du tout. Mon entourage proche, amis, etc., vraiment pas. Même bien au contraire, je suis hyper soutenue dans ce choix-là. Mais de toute façon, ils savent tous que c'est une volonté qui date de toujours. Hein.
Depuis
Moi, j'ai
toujours.
toujours voulu être maman. Aussi petite que je me souvienne, je trimballais mes poupées partout. Je les avais déjà en portage sur le dos, dans des sacs à dos pour poupées adaptées, etc. J'avais des porte-bébés, des poussettes, des landos. J'accrochais le maxi-cosy dans la voiture. J'avais mon
T'avais la
tapis à
panoplie de la
l'envers.
future maman,
Ah ouais, mon
de
talc
la
pour
petite maman.
bébé, etc. Enfin, vraiment, mais tout, quoi. J'avais la trousse de pharmacie, mais le délire, Léa, vraiment le délire. J'avais tout pour le bébé. Et d'ailleurs, mes petites sœurs en ont hérité, elles sont ravies. Bah, la petite à 6 ans, si tu veux, elle est super contente. Mais regarde ce que j'ai pour les poupées. Bah ouais, je sais, c'était à moi.
Génial.
Voilà, donc si tu veux, c'est
Donc
chouette.
ton entourage, en fait, il était présent, il te soutenait en fait dans ton désir de maternité.
Tout à fait, très soutenant.
L'environnement médical, est-ce que tu peux nous donner ton avis sans peut-être qu'on refera un podcast
Ouais.
sur ce sujet houleux. Est-ce que tu peux partager des réflexions qu'on a pu te faire quand tu as commencé à aller aux consultations pour ta grossesse?
C'est compliqué de te dire ça en résumé. Ça mériterait un épisode à part entière et on en fera un, je vous promets, parce qu'il faut faire cet épisode. De toute façon, il faut que cette histoire soit diffusée. Si jamais, avant qu'on fasse l'épisode, mais on le fera et vous l'écouterez ici aussi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Aveugle et enceinte, je crois, la conception véritable calvaire, quelque chose comme ça. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Léa vous mettra le lien, vous aurez toute l'histoire. Ça dure 28 minutes, donc je vais pas recommencer tout ici. Globalement, j'ai été très très mal accueillie au départ par un professionnel médical, une gynécologue, qui, lors du fait que je voulais enlever mon stérilet, m'a fait subir des violences physiques dues au fait d'enlever ce stérilet sans aucune, enfin, sans
Délicatesse,
prévenir,
précaution, voilà.
voilà, sans aucune précaution, sans rien quoi, et en me disant qu'elle ne me l'enlèverait pas parce que de toute façon j'étais handicapée, en gros, et avec des mots absolument ignobles en me disant que de toute façon je suis déficiente visuelle et que donc je ne dois pas faire un enfant, déjà pour ne pas faire subir ça, hein, le ça, on aime bien le ça, ne pas faire subir ça à mon homme qui était présent, et que j'allais mettre au monde de toute façon un enfant handicapé et que c'était hors de question pour elle, de son rôle de médecin, de me permettre de faire ça. Donc ça a commencé comme ça.
Ok.
Et sympa. Et en me disant au passage, en me faisant une échographie aussi sans me prévenir, en me disant, mais de toute façon, tu as des ovaires, enfin vous avez des ovaires polykystiques. Donc ça tombe bien, vous revenez me voir dans un an parce que vous n'arriverez pas, on triera vos ovules et comme ça, on essaiera que votre enfant soit pas handicapé. Voilà.
Est-ce que toi, tu considères que le fait de ne pas voir, c'est un handicap au quotidien et un handicap pour devenir maman?
Non, moi je considère qu'on est en situation de handicap par rapport à la société. Donc de temps en temps. C'est-à-dire, là en face de toi, je suis absolument pas handicapée, pourtant j'y vois pas. Je veux dire, je parle devant un téléphone qui est adapté pour que je puisse le mettre devant moi. Enfin, j'ai même essayé de cadrer la vidéo que vous verrez pas parce que c'est un podcast, mais bon, du coup, comme je sais que vous la verrez pas, j'ai pas forcément très bien cadré, mais j'ai essayé. Je peux faire plein de choses en étant déficiente visuelle et c'est pas ça qui m'en empêche. C'est souvent la société non adaptée qui va m'empêcher de me balader dans les rues autour de chez moi, par exemple, parce qu'il n'y a aucun passage piéton adapté et il n'y a aucune voiture qui fait attention. Donc là, oui, je suis en situation de handicap dans mon environnement physique. Mais par contre, si toi, tu viens chez moi, comme mon organisation est adaptée à moi, tu vas être en situation de handicap par rapport
Eh
à
oui.
moi parce que tu ne connaîtras pas mon organisation et que tu ne comprendras pas pourquoi telle chose est là, en fait, parce que c'est plus pratique pour moi, parce que j'y vois pas, tout simplement. Voilà. Donc non, pour moi, je ne suis pas en situation de handicap parce que je suis déficiente visuelle, je suis en situation de handicap par rapport à la société dans certains cas, et je ne vois pas en quoi le fait d'être aveugle et maman serait, enfin, me mettrait en situation de handicap. Alors parfois, oui, effectivement, dans les parcs, par exemple, aux jeux, je ne pense pas que j'irai forcément au parc toute seule avec mon enfant, sans aucun accompagnant. Je pense plutôt que je vais me faire des copine maman au parc et que j'irai avec ces mamans-là et que je leur demanderai de jeter un œil sur mon enfant et que moi je ferai autre chose pour elle de temps en temps et ce sera des services rendus. Voilà. Et que tout simplement j'adapterai ce handicap là. Je pense que le fait d'avoir demandé une technicienne en intervention sociale et familiale après la naissance de mon petit ou de ma petite, c'est hyper important parce que je vais avoir une personne qui va pouvoir venir à la maison et m'accompagner faire des tours de parc dans mon quartier qui n'est pas du tout adapté pour
Alors
moi et pas du tout sécuritaire.
justement, par rapport à l'accompagnement, là on parle de l'accompagnement peut-être après la naissance de ton
Oui.
enfant, là pendant ta grossesse, tu as mis en place quelque chose de particulier? Est-ce que tu peux partager du coup, parce qu'il y a plein de mamans qui vont t'écouter?
Ah, moi, j'ai mis en place tout ce qui s'offrait à moi. C'est-à-dire qu'on m'a proposé, j'ai dit
Quels sont les professionnels qui t'entourent?
Alors, moi, j'ai décidé d'être suivie par l'hôpital. Pour une raison très simple, c'est que j'ai un peu ça de mes parents. Vous vous souvenez la fonction publique? Je vous en
Ah
ai
oui,
parlé.
bien sûr.
Voilà. Moi, ça me parle. Même si la bouffe sera dégueulasse quand j'accoucherai, ben, j'ai demandé à ma maman de m'emmener des bols de yaourt avec des fruits dedans. Voilà. Ce sera très bien et je mangerai ça et j'adore. Donc, si tu veux, le problème est réglé. Donc, à partir du moment où la nourriture est réglée, on peut y aller. Donc moi, je suis allée à l'hôpital parce que moi-même, mon handicap a été découvert à l'hôpital quand j'avais 3 mois et que, je sais pas, j'ai une relation, ça me parle plus que les cliniques. Voilà. À l'hôpital, je suis suivie par une gynéco. Non,
Ah,
en
on
fait,
peut
c'est
dire
faux. Je...
quelle région? Parce qu'on n'a pas dit aux auditeurs
Oui,
ou aux
je suis à
auditrices.
Béziers.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est quand même très pratique de ne pas être très loin de la maternité dans laquelle tu as prévu d'accoucher.
C'est ça, mais alors je ne peux quand même pas y aller toute seule parce que, rappelle-toi, l'environnement n'est pas adapté. Donc, je suis à
Ouais.
côté, mais si j'accouche là et que Jean-Noël travaille toujours à Montpellier, bon là non, parce que je suis à 4 mois et demi, mais s'il travaille toujours à Montpellier, je ne sais pas comment on fait. Voilà, ça c'est ma grande inquiétude, donc il va falloir que je trouve des solutions parce que je suis seule ici, donc on va trouver. J'ai
Ok.
choisi l'hôpital, j'ai deux gynécos qui me suivent. La première qui a suivi au niveau de la fertilité au départ, que du coup j'aime beaucoup. Donc j'ai gardé pour les échographies de tous les trimestres, tu sais, l'écho T1, T2, T3. Donc écho du premier trimestre, écho morphologique et écho du troisième trimestre. Et notre gynéco, parce qu'il a bien fallu dire que j'ai une maladie génétique qui s'appelle la morose congénitale de Leber. De suite, ça fait peur. Ouh là là, Agathe, maladie génétique. Qu'en plus, je suis allergique à la lidocaïne, donc je ne peux pas avoir de péridurale. Donc là, il y a une deuxième gynéco qui s'est présentée à moi, qui m'a dit, est-ce que moi, je suis obstétricienne, est-ce que je peux suivre aussi votre dossier? Et du coup, vous alternerez entre les deux gynécos. Donc je dis, OK, sans aucun problème, très sympa la dame. Donc deux gynécos.
OK.
Ensuite, j'ai un suivi sage-femme, toujours à l'hôpital, qui est tous les mois. Donc tous les mois, je vais voir une sage-femme pour reprendre mon poids, ma tension, me represcrire des prises de sang si besoin est. Parce qu'en plus, il y a deux, trois petits trucs un peu voilà, dans ma grossesse, comme dans beaucoup de grossesses. Donc il faut quand même surveiller deux, trois petits trucs de près. Donc j'ai cette sage-femme que je vois tous les mois. Moi, j'ai mis en place de mon côté une sage-femme de la PMI, donc la protection maternelle infantile, qui vient chez moi et qui va me présenter une puéricultrice qui viendra chez moi après l'accouchement de mon bébé. Cette sage-femme-là, elle me propose un accompagnement tous les mois pour me demander déjà comment je vais. C'est quand même très important. Moi, j'aime bien quand elle se sent en face de moi, qu'elle me dit comment vous allez? Et qui est très à l'écoute et qui répond à énormément de mes questions, surtout sur la CAF, si j'ai besoin, sur l'allaitement. Hier, on a parlé d'allaitement, on a fait des positions d'allaitement avec un poupon, parce que alors, je savais pas du tout dans quelle position on allaitait un bébé. Vraiment, j'avais aucune idée. Parce qu'encore une fois, c'est imagé, hein, tu les vois, les mamans allaiter, mais quand tu les vois pas, tu sais pas.
On peut peut-être dire à nos auditeurs, auditrices, que on va faire une expérience.
Le manuel très illustré de l'allaitement.
Et en fait, l'idée, c'est que je décrive les images à Agathe
Exact.
afin qu'elle puisse être à l'aise lors de l'allaitement de son bébé quand elle aura accouché de son
Exactement.
bébé.
Voilà, donc on peut parler de tout, d'allaitement, etc. Avec cette sage-femme-là, d'accouchement, elle va me faire un peu de théorie sur l'accouchement, etc. Ensuite, je vais avoir un autre accompagnement sage-femme, encore une autre, parce que je ne peux pas faire des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital de Béziers. C'est pas possible. En
Alors
plus, sans
pourquoi? Est-ce que tu...
péridurale.
Pour quelle raison tu peux pas suivre les cours d'accouchement à l'hôpital?
Déjà parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus, en tout cas, depuis le Covid. Et d'autre part, parce qu'en plus, moi, je veux un accompagnement bien spécifique, parce que sans péridurale, j'aimerais bien être quand même vraiment bien accompagnée. Donc, je vais faire de l'autonomie. Donc, voilà, j'ai choisi une sage-femme pour m'accompagner, à préparer mon... Enfin, pour nous accompagner, parce que là, pour le coup, Jérôme, elle est impliquée, pour nous accompagner dans cet accouchement. Et ensuite, j'ai mis deux choses en place qui sont un peu plus... un peu moins dans la norme, on va dire. J'ai mis une doula. Une doula, c'est une personne
Parce
qui
qu'elle va être là tout
accompagne
le temps, elle va être là
les...
même le jour de l'accouchement, elle peut te faire des massages, elle peut te
C'est
masser les
ça.
pieds, elle peut te mettre un peu de musique, elle peut prendre le relais si ton compagnon dort à un moment ou qu'il part faire une course, elle peut prendre le relais et parler aussi avec le service hospitalier, enfin elle peut faire plein de choses.
En fait, une doula, c'est quelqu'un qui t'aide de la conception de ton enfant jusqu'aux 3 ans de ton enfant, mais sans aucun aspect médical. C'est-à-dire, c'est pas une sage-femme, c'est une personne qui est là pour t'accompagner vraiment émotionnellement, pour t'accompagner effectivement dans des massages. Voilà, moi j'ai trouvé une doula sur Béziers que j'ai vue une fois et que je compte bien revoir de temps en temps. Un peu à la carte, j'ai pris comme accompagnement, j'ai pas pris quelque chose sur la durée ou quoi, je l'appelle quand j'ai besoin. Moi-même, je me suis payée une formation de préparation à l'accouchement avec Quantique Mama.
Le site, donc il faudra vraiment que je mette les coordonnées sous
Ouais.
la
Ah, c'est
présentation du
clair.
podcast parce que c'est
C'est
vraiment un
clair, parce
super site.
en plus, je leur ai écrit pour savoir si les cours étaient accessibles. J'ai eu une réponse de Karine, la personne qui a créé ce site, qui a créé ces cours-là, qui est absolument adorable, qui a répondu présent, qui a répondu à toutes mes questions sur l'accessibilité des contenus, vidéo, audio, etc. Qui m'a dit que si j'avais quelque chose d'inaccessible, je n'avais qu'à lui envoyer un petit mail et elle m'expliquerait elle-même ce que je comprends pas, etc. Et donc vraiment, c'est top. Et moi, j'ai pris, il y a 3 formations. La préparation à la naissance, tout ce qui est sur le maternage proximal, le postpartum et transcender la douleur, j'ai pris les 3. Donc c'est
Bien
un petit
joué.
peu tout ce que c'est un peu tout ce que j'ai mis en place. Puis de temps en temps, j'ai des amis comme ça, du style Léa, qui j'écris en disant écoute Léa, j'ai trop bossé, ça va pas. Voilà,
Viens,
une autre amie
appelle-moi.
aussi qui vient d'être maman, voilà.
Donc, tu as pris un accompagnement finalement assez global. Et donc, est-ce que tu recommandes, évidemment, on rêve toutes, hein, qu'on soit non-voyante ou pas, d'avoir un accompagnement rêvé, très entouré. Est-ce que tu sens que cet accompagnement, tout ce que tu as mis en place autour de toi, est-ce que ça peut rassurer? Parce qu'il y a plein de mamans, j'entends plein de mamans maintenant que j'ai un petit réseau de mamans non-voyantes qui me disent, mais non, je pourrais jamais être enceinte, j'y arriverai pas, je ne peux pas, on va me décourager. Est-ce que toi, je sais que tu avais un désir profond qui date d'il y a longtemps d'être maman, mais est-ce que le fait d'avoir mis en place autour de toi cet accompagnement donne encore plus confiance? Est-ce que tu recommandes ça aux mamans qui ne voient pas aussi, ou c'est plutôt en fonction de son profond désir
C'est
de
ça.
maternité?
Je pense que c'est en fonction vraiment de ses besoins. Moi, j'ai cet accompagnement-là parce que je suis très seule aussi aujourd'hui à Béziers, que ma famille, elle est pas si loin, Toulouse, mais enfin quand même, que Jean-Noël, il a de la famille, mais à Montpellier, donc mon amoureux, il a de la famille, mais à Montpellier, c'est pas tout près non plus, mine de rien. J'avais un besoin d'être très entourée, comme pendant mes 3 premiers mois de grossesse, qui ont été assez difficiles avec la nausée, etc. Enfin, vraiment, j'ai eu 3 mois très compliqué. J'avais besoin d'être constamment dans un lit. Et là où j'étais bien, c'était dans le lit de ma maman, au milieu de son lit. Elle a un lit en 180 sur 180, quelque chose comme ça, enfin, qui est immense. et avec plein d'édredons et de coussins moelleux dedans. Et moi, là où j'étais bien, c'était là-dedans. Et là, je me suis dit, Agathe, il faut que tu te crées ton propre nid. Et donc, moi, j'ai créé mon nid que j'ai tissé à base de gynéco, de sage-femme, de doula, d'amis, de famille et d'autres choses qui vont arriver parce que j'ai envie de faire un peu de chant prénatal aussi parce que je chante au départ et ça me parle beaucoup. Que j'ai des petits massages au spa, des petits massages prénataux qui sont prévus, etc. Donc, voilà. J'avais besoin de ce nid. Donc, moi, j'ai créé mon nid parce que j'en avais besoin, parce que j'avais beaucoup d'angoisse, pas face au fait d'être maman et aveugle, mais face à mon quotidien aujourd'hui en tant que telle. Et donc, il a fallu répondre à ces angoisses, et c'est comme ça que j'ai répondu à ces angoisses en créant cet accompagnement-là, qui est le bon pour moi, qui sera peut-être beaucoup trop pour certains. Il y a des choses où je pensais avoir besoin d'accompagner, notamment l'alimentation, parce que j'ai anciennement des troubles du comportement alimentaire suite à une dépression. Et je me suis dit, quand tu vas être enceinte, ça va être une horreur. En fait, pas du tout, vraiment, mais ça me pose aucun problème. Je mange ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de le manger. Et si je grossis, eh ben, je grossis et je m'en fous. Sincèrement, j'ai vu que j'avais des bourrelets, ça m'a fait rire. Jean-Noël, il m'a dit, je pensais, quand tu verrais des bourrelets, tu te mettras à pleurer. Non, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça très drôle d'avoir des bourrelets. Vraiment, je pensais pas. En fait, tu réagis tellement pas comme t'imagines. Si tu veux avoir une grossesse, c'est se redécouvrir sous un autre angle. Moi, je me suis mise à aimer les frites alors que je déteste ça. Je me suis mise à manger des bûches de chèvre président par milliers alors que normalement, j'aime pas ça. Je me suis mise à plus supporter le poulet alors que j'adore le poulet. Je me suis mise à plus pouvoir faire l'amour alors que j'adore ça. Je sais pas. Si tu veux, voilà, ton être, il est en constante. Il te dit merde, tu vois. Il te dit c'est moi qui décide, ce n'est pas ta tête. Voilà, c'est moi, c'est ton corps. Donc aujourd'hui, mon corps avait besoin de ça, de cet accompagnement-là. Donc je lui offre cet accompagnement-là dont j'ai besoin moi aujourd'hui. Mais c'est le mien et c'est en aucun cas le vôtre. Ceci étant, il y a du personnel médical extrêmement malveillant. C'est vrai, moi-même, quand j'ai partagé mon témoignage, et encore une fois, allez voir cette vidéo, Léa, je compte sur toi
Oui,
pour la mettre en barre
on
d'infos.
mettra le lien.
La vidéo elle-même, même pas forcément le lien de ma chaîne, mais au moins cette vidéo-là. Plein de mamans aveugles qui m'ont dit, j'ai vécu ça aussi. C'est une partie des professionnels médicaux. Et si tu écoutes ce podcast, moi, je suis désolée, je tutoie les gens. Si tu écoutes ce podcast, eh ben, tu as de la chance parce que tu sais que c'est possible de tomber sur des gens comme ça, qu'effectivement, ça arrive. Quand tu le sais, déjà, tu es un peu préparé. Moi, je pensais même pas que dans ma bonté et mon empathie, je pensais même pas que c'était possible, et je vais être très vulgaire, désolée, mais d'être aussi con. Je pensais
Ouais.
pas que
Mais
c'était
c'est
possible.
aussi à ça qu'il sert, hein, le podcast Rencontre à l'aveugle.
C'est ça.
C'est pour donner des conseils aux mamans, pour rassurer les mamans, pour encourager les mamans, et surtout que les mamans qui ont envie d'avoir des bébés qui n'y voient pas, eh
Ouais.
ben, elles ont le droit d'avoir ce désir, elles ont le
Mais
droit
bien
d'être
sûr.
enceintes, elles ont le droit d'être des mamans.
Mais
Et
bien sûr.
oui, on fait de la prévention grâce à ce podcast.
Tu vois, moi, je parle de ça comme de l'avortement. Alors, on me dit, oh, Agathe, t'exagères peut-être un peu, mais non, pour moi, il n'y a personne qui doit te dire si tu veux avorter, il n'y a personne qui doit te dire si tu as le droit d'avorter ou pas. On ne va
Bien
pas te
sûr.
poser la question. Et ben, c'est exactement pareil quand tu es aveugle. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être maman ou déficiente visuelle, peu importe, ou malvoyante? Je veux dire, il n'y a personne qui peut t'empêcher d'être maman, à part toi. Mais il n'y a personne qui peut t'en empêcher. Et il y a du personnel médical qui est très bon, qui est vraiment formé ou qui fait vraiment des efforts. Moi, à l'hôpital, c'est le cas. Maintenant que j'ai trouvé les professionnels adaptés, franchement, tu vois, tout cet entourage, tout le monde est hyper bienveillant avec moi. Tout le monde me guide à ma chaise, me prévient. Moi, je leur ai parlé de violence gynécologique que j'ai subie. Je leur ai dit, s'il se passe le moindre truc, je me lève et je m'en vais de votre cabinet sans demander mon reste. Est-ce que c'est clair? On m'a dit, oui, madame, c'est très clair. C'est écrit sur mon dossier ce que j'ai vécu. Au bout d'un moment, vous êtes les gardiens, les gardiennes, parce que je parlais des mamans, vous êtes les gardiennes de votre temple. Donc, vous prenez vos drapeaux maternité et vous le plantez. Paf, là, vous le plantez au milieu de votre cœur et il n'y a personne qui peut toucher à votre désir de maternité. Et on vous dit que vous n'êtes pas capable d'être maman dans ce cas-là, mais pourquoi vous ne serez pas capable d'être maman en tant qu'aveugle? Pourquoi une personne en fauteuil roulant serait plus capable d'être maman? Pourquoi une personne noire serait plus capable d'être maman qu'une personne blanche? C'est complètement débile, on
C'est
n'y
ce qu'on
penserait
appelle
même
de la
pas.
discrimination, ça c'est clair et net.
Exactement. Exactement, c'est de la discrimination. Moi, j'ai porté plainte à l'ordre des médecins pour ce que j'ai subi, mais ceci étant, ça m'a pas empêché de tomber enceinte naturellement, quoi qu'en dise cette foutue gynéco, ça m'empêche pas aujourd'hui de voir mon ventre qui s'arrondisse et que quoi qu'il se passe dans ma grossesse, eh ben, je suis tombée enceinte. Mon corps, il sait faire et ton corps, il sait faire. Et si mon corps, il sait faire, ma tête et toute mon âme, elle saura s'occuper de mon enfant et toi, c'est pareil. Il n'y a pas moyen en fait. Mais il n'y a pas moyen, c'est tout. Si tu veux être maman, tu peux être maman, quoi qu'en dise le personnel médical. Et si tu as peur de te confronter au personnel médical, ce que je comprends, eh ben, va voir une sophrologue comme Léa, va voir une personne comme moi qui a vécu ça et viens, on discute sur Messenger, on discute sur WhatsApp. Va voir des personnes qui n'ont pas vécu aussi ça et qui peuvent te rassurer. Va voir plein de choses et renseigne-toi autour de toi et fais ce que tu as envie. Et si tu as envie de mettre au monde un petit bout de chou, eh ben, tu mets au monde un petit bout de chou.
Alors justement, là, tu es enceinte de 4 mois.
Et demi, je suis à 20 semaines d'aménorrhée, donc 18 semaines de grossesse.
Alors, la question qu'on a toute envie de te poser,
Yes.
comment est-ce que tu sens ton bébé bouger un petit peu, ou son,
Yes.
voilà. Et du coup, comment ça fait? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as senti, comment, dans ta tête, mentalement, comment tu étais? Tu étais complètement euphorique, tu étais plutôt calme.
Non, moi
Comment ça s'est passé les
je suis une vraie
premiers
angoissée.
moments où tu as ressenti ton bébé bouger?
En fait, j'ai ressenti très tôt et j'ai de suite su que c'était ça. Alors moi, ça m'a pas fait des bulles, comme tout le monde dit, me parle de bulles. Moi, ça me parle pas les bulles. Je suis désolée, les gars. Moi, ce qui me parle, c'est comme si quelqu'un faisait toc toc à l'intérieur de mon ventre. Voilà, donc
Okay.
juste toc au départ et après petit à petit des vagues. Ça a été compliqué de sentir mon bébé bouger au début parce que quand tu le sens bouger au début, c'est très épars. Et je ne le sentais pas tous les jours. Et je voulais sentir mon bébé pour m'assurer qu'il était bien là. Donc ça a été horrible, en fait. Voilà.
Non,
Je suis désolée, hein, je casse un
mais
tabou
c'est
là,
bien, c'est
vas-y,
bien.
le truc.
Dis,
Ça y est
dis.
pas,
On
voilà.
est là
Alors
pour dire
maintenant,
les
oui,
choses.
maintenant je le sens tous les jours, c'est la magie, j'adore me réveiller le matin, sentir ce petit bout bouger. Tout à l'heure, j'ai même senti une bosse sur un côté de mon ventre, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je parle, voilà, c'était très rigolo. Mais au départ, non, ça m'a fait très bizarre et ça m'a beaucoup angoissée quand je le sentais pas bouger.
On entend souvent des gens dire que parce que les gens sont non-voyants ou malvoyants, il y a un sens qui prend le dessus. Est-ce que tu confirmes? Et est-ce que du coup, pendant ta grossesse, il y a un sens qui a pris le dessus?
Moi, je dirais que j'ai deux sens qui ont entre guillemets pris le dessus. En fait, c'est pas qu'ils ont pris le dessus, c'est que je les ai beaucoup entraînés. Louis via la musique et via le fait du repérage de mon environnement et le toucher via le braille. Je dirais que le toucher, oui, prend tout son sens pendant la grossesse. Je dirais qu'il prend vraiment tout son sens parce qu'effectivement, j'adore toucher mon ventre arrondi, etc. Maintenant, ça me fait plaisir. J'adore bah, poser mes mains, sentir bébé bouger. Je passe des heures et des heures à sentir ce bébé bouger. Maintenant, on arrive. J'aime bien communiquer avec lui, appuyer d'un côté, paf, le sentir aller de l'autre, etc. Ça me plaît, j'aime sentir ce corps qui évolue. Je suis passée d'un bonnet B à un bonnet F. C'est toujours étrange quand tu te laves de tes 5 secondes des ballons. T'es là, ok les gars, faites votre vie, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, tous ces petits changements, des petites vergetures qui apparaissent, je m'en fous, j'en ai déjà plein à cause de ma perte de poids. Donc moi, c'est le toucher. Et Louis, je dirais que j'essaie d'en faire profiter mon bébé. J'ai un beau lac grossesse, donc un petit grelot qui est posé sur mon ventre, que je mets tous les jours. J'aime bien écouter de la musique et lui expliquer ce que j'écoute. Là, tu vois, j'écoute du Mozart, là, j'écoute du Beethoven, etc. Parler, en fait. Et le toucher aussi, j'adore, pas forcément mon toucher, mais le toucher de mon corps. J'ai ce petit rituel de demander à Jean-Noël de mettre de l'huile le soir sur le ventre, tu sais, de masser, etc. Ça me fait vachement de bien. Parce que ça m'aide aussi à ressentir mon corps extérieurement et à me sentir moi dans ce corps de femme enceinte. C'est un peu bizarre quand même d'avoir ce corps qui évolue.
Tu amènes ma prochaine question, le corps qui évolue. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'être enceinte? Je parle du corps. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quelque chose en particulier sur le corps qui se transforme?
Une seule chose
Ou
ou...
non, plusieurs, non, mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant
Ah déjà,
d'être
j'aurais aimé
enceinte?
savoir que je pouvais dire adieu à mon équilibre. Ça, c'est la
Ouais.
première des choses. Parce que clairement, le centre de gravité, il change. Et à chaque fois que mon ventre est grossi, il rechange. Je me dis, ah, c'est bon, je suis habituée. Et paf, c'est plus le cas. Donc, j'aurais aimé qu'on me prévienne de ça. J'aurais aimé qu'on prévienne que mon corps il allait subir les pires chamboulements ever et que je me dirais à un moment donné, mais en fait, je suis pas du tout faite pour être maman parce que mon corps il est pas fait pour supporter ça. Des nausées du matin couché, en fait, 24 heures sur 24, des maux de tête quand tu te lèves, ça tourne. Enfin, vraiment, un premier trimestre de grossesse, mais pas drôle du tout, du tout, du tout. Avec du coup des angoisses qui se mettent par-dessus parce que toi, t'es là, t'es allongée dans ton canapé, tu vis tes nausées et t'es toute seule toute la journée de 7 h à 20 h et t'as le temps d'angoisser comme ça et c'est horrible. J'aurais aimé qu'on prévienne que mon corps il vive ça. J'aurais aimé qu'on prévienne que j'allais avoir des problèmes de digestion et donc désolé mais l'interfessier en fire, c'est infernal. Donc j'ai déjà des crèmes pour bébé mais c'est pour moi, voilà. C'est pour mon fessier, ok les gars, vous me piquez pas ma crème. J'aurais aimé qu'on prévienne que ma vie sexuelle ce serait l'enfer. Je n'en ai plus. En fait, je n'y arrive pas. J'ai toujours dit à Jean-Noël non mais le jour où je serai enceinte, voilà, pas que tu t'inquiètes, ça touchera pas le bébé. On pourra toujours faire l'amour et en fait c'est moi qui en suis incapable. Incapable, je ne peux pas, ça ne veut pas. Voilà. Alors il y a d'autres façons de faire, hein, mais clairement ça ne veut pas. Je ne sais pas, je ne peux pas. Voilà, c'est très frustrant parce que j'en ai envie, mais aucunement la possibilité. J'aurais aimé qu'on prévienne qu'au niveau nourriture, ça allait être le bordel, que effectivement je vous l'ai dit un peu, mais j'allais aimer des trucs que j'aime pas et j'allais pas aimer des trucs que j'aime. J'aurais aimé qu'on me dise à quel point c'est vraiment beau le corps d'une femme enceinte parce que toi tu le vois pas quand t'es aveugle, tu le vois pas chez les autres, tu peux tâter le ventre de ta sœur un petit peu, de ta grande sœur. Tu peux tâter le ventre de ta belle-mère, mais c'est pas pareil de tâter et de le vivre. Et ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Ah oui, j'aurais aimé aussi qu'on me dise que mes seins, ça allait devenir des obus qui font mal et qu'au bout de 2 semaines, je pourrais plus jamais dormir sur le ventre alors que je dors sur le ventre.
Eh oui,
Voilà.
ça. Mais il y a des
Ça
techniques,
fait
je te
beaucoup de
donnerai des
choses que j'aurais
techniques
aimé.
pour dormir sur le ventre quand on est enceinte.
Ouais, j'ai le coussin, j'ai acheté le
Avec
coussin
des coussins
de.
d'allaitement, tu peux faire
Ouais, c'est ça, ouais.
des
J'ai
choses
acheté
pas
ça. Il
mal.
s'appelle Georges. C'est mon nouveau compagnon. RIP Jean-Noël. Bonjour, Georges.
Ok.
Voilà ce que j'aurais aimé un peu qu'on me dise. Ah si, j'aurais aimé qu'on me dise que j'allais faire pipi toutes les 5 minutes aussi.
Eh oui, forcément, avec le poids du bébé sur la vessie, ça change un peu les... T'as rendez-vous plus souvent avec les WC. C'est vrai que
Ah oui, c'est vrai, hein,
on le dit pas.
c'est.
Enfin, on se dit de toute façon, elle va le découvrir par elle-même, donc on n'en parle pas en fait.
Bah ouais, mais en
Mais
fait, si, parlez-en, les gars, économisez pour vos factures d'eau. Je sais pas. Et pour votre papier toilette, faites quelque chose.
Qu'est-ce que tu aimerais que le monde change pour les mamans qui ne voient pas?
Ah, mais j'aimerais que le personnel médical soit formé sur la cécité et puisse nous accompagner, quelle que soit notre cécité, en fait, et n'importe quel médecin, n'importe quel professionnel. Enfin, quand je dis médecin, c'est gynéco, sage-femme, doula, enfin, c'est pas des médecins, mais t'as compris, n'importe quel professionnel médical ou pas, puisse nous accompagner comme on a besoin d'être accompagné.
Est-ce qu'on a besoin de dire du coup, est-ce que tu t'attends? Est-ce que les personnes te donnent plus de détails sur ce qui va, sur les actes médicaux qu'ils vont pratiquer, sur la pièce, comment est la pièce, des détails comme
En fait,
ça?
qu'on te demande quel est ton besoin à toi en tant que personne déficiente visuelle déjà. Moi, mon besoin à moi, c'est de savoir exactement chaque acte qu'on va faire sur moi. La pièce, je m'en fous. J'ai aucun problème avec ça. Ça ne me pose pas de soucis. Je peux être dans une pièce ronde, carrée, rectangle ou triangle isocèle. Ça m'est complètement égal. Mais pour des personnes, c'est très important de savoir dans quel environnement physique elles sont. Par contre, c'est hyper important de me dire ce qu'on va faire exactement sur moi. Tu vois, par exemple, j'ai vécu une hystérosalpingographie. En
Ok.
fait, c'est une radio des trompes, donc on t'injecte un produit via le col de l'utérus dans les trompes pour voir si tu as les trompes bouchées. Et c'est un examen qui est douloureux. Et moi, je suis la seule à faire ça dans mon entourage, personne ne connaissait ça. Et même les médecins, enfin les radiologues, n'ont pas prévenu que c'était un examen douloureux. Et vraiment, ça fait mal. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'étais sur ma table en train de pleurer, parce qu'en plus, j'ai vécu des attouchements sexuels. Donc, si tu veux, j'aime pas avoir un spéculum dans le vagin. J'aime pas avoir quelqu'un qui est en face de moi, un homme de surcroît, qui est là avec son produit, en train de m'injecter son produit. Et j'aime encore moins avoir un homme qui ne lève même pas les yeux pour voir comment tu te sens. Et moi, j'étais en train de pleurer. Mais c'est-à-dire que j'avais le visage inondé de douleur et d'horreur et de peur. Et le gars, il a fait son truc. Ça a quand même duré peut-être 2 minutes, mais c'est long 2 minutes quand tu es dans ces cas-là.
Bien sûr,
Et
oui.
à la fin, il m'a rien fait. Ah, mais vous pleurez! Mais c'est hyper grave!
Je me permets de dire que peut-être parce que les gens ne voient pas, on ne les regarde pas. C'est un peu comme
Mais c'est
moi,
ça.
le temps que j'ai mis à trouver les mamans non-voyantes pour faire mon podcast, ça a pris des mois. C'est-à-dire que j'appelais dans les hôpitaux, on me disait, mais non, mais on n'a pas de maman non-voyante qui accouche, enfin, ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas, ok. J'ai mis un temps fou à les voir, quoi. Donc, je me dis qu'il y a des professionnels de la santé qui pensent peut-être que parce qu'ils ont affaire à des personnes non-voyantes, ils n'ont pas à les regarder. Ils n'ont pas à
Bah,
porter un
c'est
regard
ça.
sur eux, quoi.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, on est non-voyant, de toute façon, on va pas forcément finir parent, parce qu'on est non-voyant. Quand on est non-voyant, de base, on est chaste, hein, tu sais, pour les gens. Ça commence dès l'adolescence. Moi, l'adolescence, j'étais, pour tous les mecs du lycée et du collège, j'étais chaste. J'avais une ceinture de chasteté, ça s'appelle ma non-voyance. Donc, tu peux pas être enceinte. Voilà, c'est pas dans la réalité. Donc, tu peux pas être mère aveugle
Donc,
puisque tu es chaste.
il y a une espèce de non-reconnaissance de la
Tout
personne.
à fait. Il y a une non-reconnaissance de la vie sexuelle à la base. Donc, comment tu veux qu'il y ait une reconnaissance de la maternité dans ces cas-là? Ça commence loin. Il n'y a même pas d'éducation sexuelle pour les mâles et les non-voyants. Ça n'existe pas. Moi, je suis sur le projet avec l'association Mes mains en or, mais il n'y a pas. Donc, si tu veux, il n'y a forcément pas de reconnaissance de maternité derrière. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, cette hystérosalpingographie, bah, le gars, il a dû se dire, même inconsciemment, bah, de toute façon, elle ne sera pas maman, donc est-ce que je m'en fous? Inconsciemment, et puis je suis pas dans la tête de ce médecin, et puis c'est moi qui. Voilà, mais quelque part, c'est un peu ça. Et puis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est quand même le plus important, comment nous on vit les choses. Et après, la deuxième chose que j'aimerais qu'il y ait aussi, c'est une sororité entre les mères non-voyantes et malvoyantes. Et moi, j'adore, depuis que je témoigne, j'ai plein de mamans, enfin plein
Ouais.
d'eux, parce qu'il y en a
J'allais t'en
beaucoup.
parler en fait. J'allais te dire que dans une de
Voilà.
nos conversations personnelles, qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire après la naissance, c'est qu'il y a quand même une solidarité entre les femmes. Mais pas toujours.
Voilà.
Tu peux avoir des mamans qui se révèlent totalement solidaires de toi, Et d'autres qui te tournent le dos parce que, ah ben non, ça y est, là, t'es maman, il faut que tu dormes, il faut que tu t'es dans les couches, t'es dans les biberons, t'as plus de vie sociale.
C'est
Et du
ça.
coup, voilà, il n'y a plus de solidarité entre les femmes. Vraiment, je pense que c'est un vrai message à faire passer, c'est soyons solidaires,
Non, mais
écoutons-nous,
c'est clair.
parlons-nous,
C'est clair.
osons dire au secours, ça va pas, osons dire les choses.
Non, mais moi, si tu
Il n'y a pas
écoutes
de
ce
honte.
podcast-là et que tu es enceinte et que tu es dans ton premier trimestre et que ton premier trimestre est horrible, bon, moi, je suis dans mon second, mais le second trimestre, c'est bien en général. Donc, on en reparlera au troisième. Mais si tu veux, pour l'instant, c'est ce que j'ai connu et peut-être que après, on pourra parler d'accouchement, etc. Mais si tu vis des trucs horribles sur ta maternité, mais viens m'écrire un message. Vraiment. Franchement, même si on ne se connaît pas, je m'en fous. T'es femme, je suis femme, tu vis un truc horrible, eh ben viens, on discute, c'est tout. Et même des fois, avoir une oreille, moi j'aurais aimé, ne serait-ce pendant mon premier trimestre de grossesse, avoir une oreille compatissante. Et heureusement, t'es arrivée à un moment donné, bon, malheureusement, je t'ai contactée que trop vers la fin, que tu m'as dit, bah oui, Agathe, ça existe des femmes qui ont des nausées pendant les 3 premiers mois, tout le temps, jour et nuit, et qui ne peuvent rien avaler. Ça existe, t'inquiète pas, ça va passer ou pas, mais normalement ça devrait passer. Et si ça passe pas, et ben t'en parles à ton médecin et tu peux être hospitalisé, etc. Parce qu'avant ça, on me disait, oh bah oui, bah c'est le lot des femmes enceintes, enfin. Tu sais, Jackie le gros beauf là. Dans l'idée, voilà, c'est ça. Oh bah c'est le lot des femmes enceintes, ah bah tu morfles, bah, tu verras, en plus t'en voudras un deuxième
Mais
après. Oh là
toutes
là,
les
c'est pas
femmes
ce
n'ont
qui
pas
t'attend.
des nausées, hein, en plus. On n'est pas
Non,
obligé
c'est
d'être.
ça. Et
Bah,
moi, je suis dans une
voilà.
famille où personne n'a une nausée. Donc, si tu veux, ben, personne ne me comprenait. Elle me disait, mais t'exagères, c'est parce que t'es aveugle et que tu fais trop attention à ton corps, c'est n'importe quoi. Mais j'avais envie de leur filer mes nausées, ne serait-ce que 2 minutes, et leur dire, mais vas-y, mais vis ça, et ensuite on discute. Et ça m'a mis en colère, j'avais envie de tabasser tout le monde. Mais vraiment, j'étais, hein. Et ça me refout en colère, tu aurais
Bah
dit quoi
oui,
ça?
j'entends bien. Donc, faut le répéter aux mamans qui nous écoutent. Il y a
Mais
vraiment,
oui.
s'il n'y a pas de réseau, il y a toujours quelqu'un.
Mais
Ça,
bien
c'est la
sûr.
magie des réseaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Agathe. C'est
Tout à
vraiment
fait.
la magie des réseaux. Il y a des gens qui sont bienveillants sur les réseaux sociaux et qui ont un réseau. C'est-à-dire que moi, sur Paris, je peux recommander en fait l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien quand je sens qu'il y a une maman qui a un problème avec son bébé, qui n'arrive pas à prendre le contact, ou qui est seule, ou qui va pas bien du tout, qui est en
À
train
fait.
de courir vers une dépression. Et je pense que Agathe, toi, tu as aussi un autre réseau, plus peut-être dans le sud de la France, mais que tu as, du fait de tes vidéos sur les réseaux sociaux, justement, tu as plus de retours. Et je suis sûre qu'une maman qui est dans le besoin de parler, qui n'est pas bien, si elle te contacte, je suis sûre que tu seras de bons conseils et que tu as toi-même un autre réseau à
Bien
recommander
sûr.
dans toute la
Et
France,
même, je vais aller
d'ailleurs.
même plus loin, j'ai pour toutes les mamans, parce que j'y pensais pas, parce que moi j'en ai pas eu besoin, j'ai une femme qui s'appelle Brifa. Et bien Brifa, elle a créé tout un outillage pour devenir accompagnante dans les maternités pour les femmes enceintes, pour expliquer aux sages-femmes, aux gynécos, etc. Elle a tout un matériel, une sensibilisation à faire, et pour pouvoir bah, sensibiliser les sages-femmes et les gynécos, etc., à la déficience visuelle et à la maternité. Il y a quand même des choses. Alors elle débute. Elle est au tout début de sa carrière là-dedans, mais parce qu'elle s'est rendue compte que c'était un besoin, et moi je la soutiens à fond, j'en ai pas eu besoin, donc je ne lui ai pas demandé. Elle m'a proposé, hein, sincèrement, mais elle est super, donc si tu as besoin, voilà, que ça te rassure d'avoir Brifa dans tes contacts, et ben tu me contactes, moi je contacte Brifa, et c'est fait, il n'y a pas de souci.
Côté confiance en toi, confiance en soi, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens avoir gagné quelque chose de par tes expériences de ce premier trimestre qui vient de s'achever?
Je dirais confiance en mon corps, oui. Donc c'est de la, parce que mon corps, c'est moi, donc oui, confiance en mon corps qui sait faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et confiance en moi dans mes choix. C'est vrai que je fais mes choix aujourd'hui et que j'ai confiance en mes choix. Et je trouve que mon corps fait merveilleusement bien les choses. J'avais très envie d'accoucher sans péridurale et ça me faisait très peur de ne pas savoir refuser la péridurale. Et ben voilà, mon corps, il a dit, ben non, bah t'en auras pas. Voilà. Donc je trouve ça cool. Merci mon corps. Enfin vraiment, tu vois. On sait comment on veut faire les choses. Et je pense que ça m'a un peu transformée en louve. Tu sais, ce début de grossesse. Et je couve mon petit là dans mon ventre et je couve mes désirs à moi. Et j'espère pouvoir aller aussi loin que j'ai envie dans l'accouchement que j'ai envie de vivre et dans la maternité que j'ai envie de vivre en gardant cette confiance le plus intacte possible. Et même si de temps en temps elle est brisée, c'est normal, ça arrive à tout le monde, aveugle ou pas. Je pense que ça c'est une vraie expérience qui fait du bien. Même si elle
Super.
n'est pas toujours agréable à vivre.
Ouais, ça fait partie du chemin. Agathe, si on veut te joindre, comment
Yes.
tu préfères qu'on te joigne? Je sais que tu es vraiment très active sur les réseaux sociaux. Par quel biais on peut te contacter? Qu'est-ce que tu
Le plus
préfères?
direct, c'est Facebook, Agathe Thévenin-Vialet. Le plus direct, c'est Messenger sur Facebook. Et sinon, mon Instagram, ma vue en rose. Par contre, là, ça peut attendre un peu de temps en temps parce que ça va dans les demandes et j'avoue que je ne pense pas tout le temps aller voir mes demandes. contact@mavumerose.fr.
Je mettrai tous les liens qu'Agathe a cités dans cet
Yes.
épisode. Il se peut que nous refassions un deuxième épisode sur un
Non,
autre
c'est pas
sujet.
il se peut, c'est nous allons
Nous allons le
faire.
faire, on doit le faire.
Voilà.
Donc restez connectés, abonnez-vous. Agathe, merci
Merci.
beaucoup. J'espère vraiment à très 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 vite.
Avec plaisir, quand tu veux.
À bientôt, Agathe.
À bientôt.